BFM Business présente Recherche Talent avec Laure Clausier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Recherche Talent, la seule émission où ce sont les patrons qui passent un entretien d'embauche aujourd'hui. Le défi est lancé à Guillaume Martineau. Bonjour, président de la coopérative Orpi, premier réseau immobilier français. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant, mais avant, on fait connaissance avec nos trois étudiants.
Bonjour, je m'appelle Jean Dubillot, j'ai 20 ans et je suis étudiant en école de commerce à l'ESCA à Angers, mais aussi trésorier de mon association ESCA Junior Conseil. Et c'est pour ça que je suis naturellement passionné par le conseil, mais aussi par l'immobilier. Je suis très intéressé par Orpi, par son réseau très vaste, mais aussi et surtout par sa marque employeur. Je suis curieux de ce que Orpi peut nous apporter et nous proposer comme opportunité à nous, jeunes, passionnés de ce secteur et particulièrement dans le conseil immobilier.
Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Antoine Fernandez, j'ai 21 ans, je suis actuellement en première année du programme Grande École de l'ICN Business School et président d'ICN Junior Conseil, la junior entreprise de l'école. Je suis ravi de pouvoir échanger aujourd'hui avec Monsieur Martineau sur divers sujets tels que la stratégie mise en place par Orpi pour faire face à la crise que connaît actuellement le marché de l'immobilier en France et quelle est leur vision pour les années à venir.
Bonjour à tous, je suis Théo Truong, j'ai 21 ans et je suis étudiant en Master 1 à l'UM Lyon. Je suis ravi d'être ici, pouvoir échanger avec Monsieur Martineau pour en savoir davantage sur le secteur de l'immobilier, ses tendances et comprendre aussi comment aujourd'hui Orpi s'adapte à ce nouvel environnement de marché.
La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tous les trois vous connaissez Orpi avant de venir.
Absolument.
Facile cette fois-ci. Bienvenue à tous les trois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Premier réseau d'agences immobilières en France, le groupe Orpi. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore dire l'immobilier ça mène à tout?
Ben oui, ça mène à tout. Moi, j'ai eu leur âge, j'ai été étudiant aussi, ça m'a amené où j'ai été, et puis ça mène à tout. Et on a surtout besoin d'immobilier, parce qu'on a besoin de loger des gens. Donc c'est un secteur qui est toujours porteur, quelle que soit l'époque.
On peut être chef d'agence, on peut travailler dans les ressources humaines, il y a plein de choses possibles chez vous.
On peut tout faire, en fait. On peut soit vous travaillez au siège et vous avez toutes les fonctions support qui font fonctionner le siège d'une coopérative qui gère plus de 8000 personnes, soit vous travaillez en agence, vous êtes syndic d'immeubles, vous êtes négociateur, vous êtes patron, vous êtes assistante. Enfin, il y a plein de choses, on peut faire plein de choses dans l'immobilier et il y a surtout plein de métiers dans l'immobilier.
Alors, vous êtes prêts face à Jean, Antoine et Théo. On commence avec Jean, votre première question.
Ma première question, vous parliez de secteur porteur pour l'immobilier. Depuis fin 2022, l'immobilier est peut-être pas en crise, mais a de multiples variations qui ne rassurent pas forcément les futurs jeunes qui voudraient y travailler. Qu'est-ce que vous mettez en place? Comment vous voyez l'immobilier dans plusieurs années? Et quels sont les leviers que vous activez
Alors, c'est vrai, beaucoup de fermetures d'agences hein, ces derniers temps. Là, on enregistre mi-juin, il y a eu des chiffres qui font froid dans le dos.
Tout à fait. Alors, pour comprendre demain, il faut revenir sur avant. Et bon, donc moi, j'ai eu votre âge aussi. Hein. J'ai eu cet âge-là. Je suis sorti, j'ai commencé en 1992. Alors, c'est très très loin pour vous, ça vous parle peut-être pas. Mais c'était déjà une crise énorme. Parce qu'on avait déjà la guerre du Golfe et l'immobilier, c'est un secteur cyclique. Donc, c'est-à-dire qu'un coup, c'est en haut, un coup, c'est en bas, il y a des variations. Ce qui est compliqué, c'est qu'on vend, entre guillemets, une matière où il y a de l'affect. Donc, on vend des biens où généralement on est très attaché. Donc, il y a de l'avenir parce qu'il faut toujours se loger, quelle que soit l'époque, quel que soit ce qui va se passer dans quelques jours, quelle que soit l'époque et le moment, il va falloir vous loger. Donc, c'est toujours un secteur d'avenir. Ce qu'il y a, il faut le faire de manière plus professionnelle, il faut le professionnaliser. Notre différence d'âge fait que quand moi j'ai commencé, on n'avait pas de portable, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas toutes ces choses qui faisaient qu'aujourd'hui on travaille différemment. Et pourtant le besoin est le même. Il faut habiter quelque part ce soir. Donc on met en place des solutions. On pousse aussi les hommes et les femmes politiques à réfléchir au logement parce que c'est un sujet qui est transverse, qui touche tout le monde et qui n'est pas propre à un parti. Et donc, oui, il y a des fermetures.
Il faut être prêt, oui, c'est ça. Il faut être prêt à avoir son agence fermée,
Il faut déjà être prêt à la garder ouverte. C'est-à-dire que, oui, il y a toujours des gens qui peuvent fermer des agences, mais vous les fermez pourquoi? Parce que vous manquez de trésorerie. Donc, en fait, il faut savoir gérer. Agent immobilier, je sais qu'on a une image parfois un peu particulière, un métier facile, on ouvre des portes, on gagne beaucoup d'argent, on roule dans de très belles voitures. Bon, ça peut arriver, évidemment. Mais c'est aussi, vous devez apprendre à gérer une entreprise. Parce qu'une agence immobilière, un groupe immobilier, c'est une entreprise. Donc, il faut avoir de la trésorerie, il faut anticiper, il faut mettre de côté, il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Donc, tout ça, ça s'apprend dans les écoles. Puis après, vous l'apprenez sur le terrain. Donc, c'est un métier comme un autre et qui, on vend des choses différentes des autres, mais on génère beaucoup de travail. Donc,
Antoine.
Alors, moi, j'avais une question. J'ai fait un tour sur votre plateforme sur laquelle vous postez vos offres d'emploi. Et j'ai vu qu'actuellement, il n'y avait aucune offre disponible au siège. Alors, je me demandais combien de personnes vous recrutez par an au siège. Est-ce que nous, étudiants d'école de commerce, pouvons réaliser un stage ou une alternance au sein de votre siège? Et quelles sont les conditions de travail?
Alors, au siège, on a 90 salariés qui sont employés de la coopérative. Alors, effectivement, on recrute plus dans nos agences parce que ORPI, c'est Organisation Régionale des Professionnels de l'Immobilier, et ce sont essentiellement des agences immobilières, des cabinets de syndic ou de gestion. Donc, on recrute, on fait des stages. Aujourd'hui, j'ai eu 3 personnes qui sont arrivées dans l'entreprise ce matin, qu'on a recrutées. Une ancienne collaboratrice qui avait quitté l'entreprise, qui est revenue. Une jeune stagiaire qui a 22 ans, qui vient faire un stage de communication. Donc, ça, on a régulièrement des offres sur les stages. Dire qu'on n'est pas non plus une multinationale, on ne peut pas recruter 200 personnes au siège. Il faut que 90 personnes fassent fonctionner un groupe de 8000. Donc, c'est l'éternel équilibre entre trop de monde, une masse salariale qu'on nous reproche parfois d'être trop élevée et pas suffisante. Donc, en fait, c'est un équilibre permanent.
Sur lequel ils n'ont pas vraiment de poids hiérarchique, puisque ça fonctionne en coopérative.
Qui n'a pas de poids hiérarchique?
Au siège, vous avez vraiment des DRH qui donnent assis?
On a un secrétaire général, on a un CODIR, on a un directeur marketing, on a un directeur informatique, un directeur formation, enfin des directrices d'ailleurs. Donc en fait, c'est une micro-entreprise. La difficulté quand vous gérez une coopérative, c'est qu'il y a 1350 patrons. Moi, je suis président d'un groupe immobilier, mais j'ai 1350 directeurs du marketing, 1350 DSI qui me disent tous qu'il faudrait faire comme ça. Donc, on a des gens dont c'est le métier, on a recruté des gens de talent, et je suis assez content de voir qu'on est devenu la marque préférée des Français, ce qui fait qu'on recrute des gens de plus en plus professionnels qui nous rejoignent. Mais vous avez... Il y a des gens très différents au siège, c'est ce qui en fait la richesse.
Théo.
Je rebondis sur ce que Monsieur Martineau vient de dire. Donc, vous êtes la marque préférée des Français. Aujourd'hui, vous êtes essentiellement implanté en France, 1350 agences. Est-ce que, à l'avenir, vous n'avez pas l'ambition de vous étendre davantage en Europe, par exemple?
Alors, on a eu cette ambition et on en est revenu. Il y avait un député de la 4e qui disait la Corrèze avant le Zambèze. Et ben là, en fait, on est en train de revenir à nos fondamentaux. C'est-à-dire bien s'occuper de notre pays où on sait travailler, parce que la législation n'est pas la même. Quand vous êtes au Portugal, par exemple, la taille d'un séjour n'est pas la même qu'en France. Les logiciels métiers qu'on utilise fonctionnent pas de la même façon. Donc, les expériences qu'on a eues à l'étranger nous laissent penser qu'il faut plutôt se recentrer. On est très présent outre-mer. Mais là, c'est le territoire français, donc les mêmes législations. Mais les pays étrangers, on en a encore un petit peu, mais c'est pas là où on est le plus fort.
Jean, c'est votre tour.
Pour parler un peu énergie, car le secteur du logement représente, en tout cas en France et même dans le monde, en France, c'est à peu près 40%, je crois, de la consommation énergétique. Il y a plusieurs foyers qui sont encore en transition sur les normes, des passoires énergétiques énormes. Comment vous, en tant qu'acteur de l'habitat, faites pour diminuer cette consommation ou en tout cas la responsabilité et diminuer votre impact carbone?
Alors, excellente question.
Très bonne question et qui est tout à fait d'actualité parce que la difficulté, c'est qu'on a affaire à des propriétaires. Et nos conseillers, lorsqu'ils vont faire une estimation, expliquent à un propriétaire qu'il va y avoir des travaux à faire. Et souvent, les propriétaires ont du mal à l'accepter ou l'admettre ou tout simplement n'ont pas les moyens de faire ces travaux. Donc là, on est en train de professionnaliser nos collaborateurs pour justement que ça devienne une valeur ajoutée de savoir expliquer les travaux, les économies qu'on peut faire là-dessus. Mais c'est surtout de la pédagogie. Ce que fait le gouvernement depuis des années est un choix difficile. C'est-à-dire qu'il oblige les Français à rénover le logement. C'est pas facile. Et nous, là-dedans, on est la petite courroie de transmission qui doit, sur le terrain, on doit expliquer pourquoi il faut le faire, est-ce que ça va leur faire gagner. Mais il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas les moyens de le faire. Donc, on en revient toujours à l'histoire de la professionnalisation de notre métier. Il y a eu une époque où on faisait de l'immobilier facilement. Tu sais pas quoi faire, tiens, tu feras de l'immobilier. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus technique qu'avant. Votre génération, vous allez devoir gérer justement ces problèmes énergétiques, les problèmes RSE, toutes des questions qu'on n'avait pas, nous, à votre époque, parce que il fallait chauffer les maisons. On n'avait pas le même regard. Donc, moi, je pense que tout ce qu'on est en train de faire là... En fait, on n'est que des passeurs. C'est-à-dire que vous, un jour, vous aurez mon âge et vous aurez, dans les 20-30 ans qui viennent, vous allez devoir faire avancer la société avec l'empreinte carbone dont on parlait tout à l'heure, où vous êtes beaucoup plus sensible à des choses sur lesquelles nous, on n'était pas sensibles. Mais on est rattrapé par ça parce que votre génération nous le demande.
Est-ce qu'il veut dire que le boulot de l'agent immobilier, au-delà même de sa formation technique que vous êtes en train de mettre en place pour monter un peu en compétences, il y a un aspect déceptif pour certains propriétaires où vous vous retrouvez à expliquer des choses qui sont pas possibles, des prix qu'il faut faire baisser.
On en parle de temps en temps ensemble dans vos émissions. C'est-à-dire que vous avez toujours un vendeur qui pense que son bien vaut plus cher que celui du voisin. et puis un acquéreur qui dit non, ça vaut moins cher. Et nous, moi, mon boulot, enfin notre boulot, c'est de rapprocher les deux parties. Après, il faut être juste et il faut être factuel. Pourquoi, quand vous avez une consommation d'énergie, pourquoi quand vous avez du simple vitrage, c'est plus possible, quand il n'y a pas de laine de verre pour isoler, quand on utilise du pétrole, on sait que les énergies carbone, la fossile, c'est la fin. Donc, mais tout le monde n'a pas les moyens de mettre en place des pompes à chaleur ou des choses comme ça. Donc c'est beaucoup de pédagogie, c'est un temps long l'immobilier. Alors il y a ces cycles de crise, et puis il y a ces cycles où on doit expliquer pourquoi un prix vaut ce prix-là, pourquoi il faut faire des travaux, pourquoi c'est utile. Quand vous plantez un jardin, par exemple, vous n'avez pas l'arbre tout de suite qui pousse, mais vous travaillez pour les générations futures, et votre jardin, bah, c'est peut-être le deuxième ou le troisième propriétaire qui en bénéficiera encore un peu plus.
Antoine.
Alors moi j'avais une question, j'ai vu qu'entre mai 2023 et avril 2024, il y a eu environ 1120 agences immobilières qui ont fait faillite. Oui. Quel est ce chiffre pour Orpi? Et comment gérez-vous la réinsertion des personnes qui travaillaient dans ces agences qui ont fait faillite, malheureusement?
Alors, nous,
ce que vous dites, réinsertion. Alors, ça, c'est plutôt pour la prison. Mais, mais il faut pouvoir gérer, changer de travail et évoluer.
Je comprends. Ben, vous voyez, par exemple, l'année dernière, on avait une coopérative. C'est différent d'une entreprise classique parce qu'on est des coopérateurs, donc on est là pour s'aider les uns les autres. C'est-à-dire qu'une, c'est une chaîne humaine. Et c'est très important l'histoire de la coopérative parce que c'est pas une entreprise comme les autres. Donc on essaye de se soutenir, de s'aider. Moi, je suis élu, on est 7 élus, et quand on reçoit des confrères en difficulté, on gère des protocoles. C'est-à-dire qu'on étale les cotisations, on essaye de les sauver. On leur dit pas brutalement vous fermez, parce qu'une agence qui ferme, bah, c'est des emplois qui ferment, c'est aussi l'image de marque qui ferme, c'est pas bon. Donc l'année dernière, on a eu sur l'année, on avait eu 38 protocoles. Là, au moment où je vous parle, j'en suis déjà à 153. C'est-à-dire que la situation est très compliquée pour beaucoup d'agences. On a chez Orpi actuellement, doit être depuis le début de l'année, à 16 liquidations judiciaires. Ce qui est une vraie tristesse parce que vous avez des agences qui ferment du jour au lendemain, ferment le rideau. Voilà. Plus de trésor, plus rien. Parce que quand vous vendez une maison, vous touchez pas l'argent tout de suite, vous touchez l'argent 3-4 mois après. C'est un métier de marathonien. Donc en fait, un jeune qui travaille avec nous, ou un pas jeune d'ailleurs, de toute façon, jeune c'est quoi? C'est un état d'esprit. Enfin, je me rassure comme ça.
Oui, oui.
Je me rassure comme ça, mais on doit les accompagner. Donc, on peut pas réinsérer une boîte qui ferme, par exemple, quand vous avez 5 négos dont le patron ferme la boîte. On peut essayer de leur dire, tiens, dans telle agence, ils recrutent, parce qu'on est en recrutement permanent. Parce que le développement de nos agences, c'est ce qui fait que on continue à prendre des parts de marché, et il y a toujours besoin de se loger. Donc la difficulté, c'est d'accompagner et parfois c'est dur de dire à un confrère, il faut fermer ou on ne t'accompagne plus. Mais quand il y a plus de trésorerie, quand il y a plus rien, on peut pas faire du soutien abusif.
Vous arrivez à faire passer des salariés d'une agence à l'autre et à...
Quand vous êtes bon, oui. Je vois recherche talent. Quand vous êtes talentueux, on vous prend. Si vous êtes mauvais, on va pas vous prendre. Enfin, faut voir les choses en face. Donc quand vous êtes un bon conseiller ou un bon gestionnaire ou une bonne assistante, il y a jamais de problème de chômage. Moi, je vois dans les Landes là, je cherche à recruter. Voilà, je suis en recrutement permanent. Mais en fait, vous avez le talent du diplôme. Et moi, j'ai un métier où il n'y a pas que le diplôme qui compte. Il y a aussi le savoir-être, le savoir-faire. Comment on rentre dans la vie des gens, on rentre dans l'intimité des gens.
Faudra quand même finir ses études. Hein. Oui. Le diplôme, ça, oui, ça bien compte sûr, un petit peu quand même.
Mais c'est quand même.
Mais après,
c'est un métier où pour obtenir la clé de la personne chez qui vous rentrez, il faut aussi un peu de talent. Donc, en fait, c'est un métier où vous pouvez vous épanouir. Vous pouvez pas forcément être le meilleur à l'école, mais avoir de l'empathie, vous intéresser aux gens. Et puis, si en plus vous êtes bon, vous comprenez. Et vous parliez du siège des emplois qu'on recrute. Bah, quand vous êtes bon quelque part, vous trouvez toujours. Et puis, on peut vous prendre aussi dans des agences. On a 500 offres d'emploi actuellement. Donc
Théo.
En parlant de talents, il y a des talents aujourd'hui qui sont très recherchés, les profils autour de la technologie. Est-ce qu'aujourd'hui, et j'ai vu que vous aviez signé un partenariat en 2023 avec Priceable, oui. Une entreprise qui propose des solutions d'intelligence artificielle, est-ce qu'aujourd'hui il y a des initiatives ou ce sont des outils que vous intégrez, par exemple pour réaliser de l'évaluation immobilière ou des diagnostics de performance énergétique?
Alors, tout à fait. On a révolutionné notre façon de travailler. On a été même chercher une boîte qui s'appelle Sweetbright, qui était une start-up belge, qu'on a intégrée à notre écosystème. Et là, on vient de révolutionner tout notre écosystème. On a créé un entrepôt de données avec James. Donc, ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui, on a révolutionné notre métier, et on va s'appuyer sur des digital analysts, des data scientists. Aujourd'hui, quand on recrute à la DSI, c'est très compliqué parce qu'on manque de talent justement là-dedans. Donc, pour faire fonctionner autant de logiciels, il faut des gens compétents. Marketing, c'est pareil, il y a la formation. Donc, il faut bien dissocier le siège, qui est fonction support, des agences où là, j'ai pas besoin d'un data scientist dans une agence ou d'un ingénieur. Forcément, les profils sont très variés dans les agences. Mais si vous voulez développer une marque, en tout cas lui faire prendre de l'avance, la data aujourd'hui, la donnée, c'est très important. Donc on s'est musclé là-dessus.
C'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on vous rappelle maintenant quand vous appelez une agence pour demander...
J'espère qu'on vous rappelle, bien sûr. Non, mais c'est toute la difficulté quand vous gérez un groupe. Il y a des journalistes partout. Il y a des gens bien, pas bien. Bon, voilà. Là, je suis là face à vous quatre.
Et là, vous devez défendre tous les gens qui ne nous ont pas rappelés. Ça nous fait de l'émotion.
Non, mais je vais vous donner un détail. Souvent, vous avez des gens, par exemple, qui mettent, Gustave Le Chat, parce qu'ils ne veulent pas être rappelés, mais ils veulent les infos. Donc, ou des faux 06. Donc, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on a mis en place des systèmes de call tracking qui nous permettent vraiment de voir si les téléphones sont pipeaux ou pas. Et puis, ça permet surtout à nos forces de vente de ne pas s'épuiser inutilement. Parce que quand tous les lundis matins, vous rappelez des faux numéros.
Ah oui.
Ben oui, il y en a plein. Ou des gens qui veulent les infos, mais qui ne veulent pas qu'on puisse les retrouver. Ils veulent un prix, ils font une estimation, mais ils ne veulent pas non plus donner toute la chaîne. Donc, il faut bien que nous, notre travail, on puisse le valoriser. Donc, Laure, si vous appelez une agence hors pied avec un bon numéro, on vous rappelle.
Moi, je donnerais tout. Mon nom, mon prénom, mon numéro, tout. Allez, on va débriefer ensemble avec Jean, Antoine et Théo. Vous allez rejoindre la régie. Vous reviendrez juste après nous dire vous ce que vous avez pensé de nos trois étudiants.
Recherche talent sur BFM Business.
Jean, Antoine et Théo, vous faisiez face à Guillaume Martineau, président de la coopérative Orpi. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Jean ?
Alors moi, et surtout sur mes questions, assez intéressé par l'immobilier, mais c'est vrai qu'un secteur un peu en difficulté, j'ai trouvé qu'il a très bien su rebondir sur le côté immobilier, c'est un secteur essentiel, ça rassure un peu aussi quand on veut se lancer, le fait que ce soit une coopérative, qu'il y a un aspect entrepreneuriat qui soit assez important, même si on est dans une grande entreprise.
Ça vous fait peur, ça, le côté cyclique
Le côté cyclique, oui, mais... Ça fait partie du dépassement de soi, de l'innovation. C'est parti un peu de l'investissement. Quand on parle d'immobilier, on parle bien sûr beaucoup d'investissement. C'est une période en ce moment pour l'immobilier qui est plus difficile avec des enjeux et des challenges plus grands au vu des critères macroéconomiques. C'est quelque chose qui est très challengeant et plaisant quand on peut s'y mettre, quand on peut y mettre ses propres moyens. Avoir une agence, par exemple, et faire face à ces challenges et ces problèmes-là, ça peut être quelque chose de vraiment passionnant.
Il y a un gros sujet humain. Antoine, qu'est-ce que vous avez pensé du patron d'Orpi ?
Moi, je trouvais l'échange plutôt intéressant. Il y a eu plein de sujets qui ont été abordés. Les questions étaient bonnes et les réponses étaient plutôt pertinentes par rapport aux questions. Et personnellement, l'immobilier, c'est un secteur qui m'intéresse. Et le contexte actuel fait que... On se pose des questions sur est-ce que je vais m'orienter vers cette voie-là ou pas.
Mais ça recrute quand même. Hein.
C'est ça. Et j'ai trouvé que M. Martineau était plutôt assez rassurant à ce sujet-là. Et,
Théo ?
Très intéressant, le côté très factuel de M. Martineau, de donner des exemples, d'avoir une réponse vraiment fournie. Je pense plus globalement, c'est un secteur qui initialement, les Français apprécient énormément l'immobilier. Il y a cette... Jean a parlé justement d'investissement. Il y a cette idée un petit peu qu'investir dans l'immobilier, c'est investir dans la pierre, dans quelque chose de solide. Et aujourd'hui, c'est un secteur, on l'a vu, qui ces dernières années était un peu aussi boosté par les politiques européennes et économiques. Et
aujourd'hui, les taux bas, oui.
Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui doit aussi peut-être se réinventer, se renouveler et qui est fait face à de nombreux enjeux.
Vous n'avez pas demandé combien on gagne dans l'immobilier, non ? Ça ne vous intéresse pas ? Aucun d'entre vous, Jean, Antoine ?
Combien on gagne dans l'immobilier, je suis sûr que, comme il l'a dit, pour peu qu'on y mette beaucoup du sien et qu'on soit bon, et on peut rouler avec des grandes voitures.
D'accord, donc vous êtes sûr que dans l'immobilier, ça gagne bien.
Ce qui est très intéressant avec le côté Orpi immobilier, c'est qu'il y a la possibilité vraiment d'être entrepreneur, de mener son projet. Et donc, c'est assez lié, je trouve, à la réussite et à son investissement. Il n'y a pas vraiment de base.
Vous voyez bien à la tête d'une agence diriger
votre petite... Oui, il y a le côté projet entreprenant qui est assez bien. Il y a une vision stratégique à avoir. Et...
Antoine, vous avez plutôt un projet à être DAF au siège. Un profil comme ça.
J'aimerais bien travailler au siège.
Bon, vous êtes plutôt siège Théo.
Plutôt start-up. Nous, je sais qu'à la Junior Entreprise l'année dernière, on a travaillé avec GoFlint, qui est une start-up. Donc,
il y a de quoi faire dans l'immobilier, il y a énormément de PropTech.
Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils développent un logiciel basé de recherche donc de biens immobiliers, non pas sur des critères quantitatifs, comme la surface ou le prix du loyer, mais plutôt sur des critères qualitatifs. Par exemple, j'aimerais que mon logement soit situé à côté d'espaces verts ou de points d'eau. Et justement, je pense qu'il y a, comme vous l'avez formulé, énormément de possibilités. Et c'est quelque chose qui m'attire plutôt que de m'orienter chez Orpi.
Et bien, peut-être après. Quand vous aurez fait un peu de start-up, après vous irez peut-être dans un plus grand groupe. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui. Jean, Antoine et Théo, on va débriefer avec Guillaume Martineau.
Recherche talent sur BFM Business.
Guillaume Martineau, ils sont convaincus par l'idée de travailler dans l'immobilier. Alors, pas tous pour les mêmes profils, mais la première chose qui frappe, c'est qu'ils pensent tous qu'ils vont gagner pas mal d'argent quand même.
Oui, mais alors j'entendais ça, j'entends aussi l'histoire des grosses voitures. Donc, alors moi, je suis un mauvais exemple. Par exemple, j'ai une vieille Smart qui a 18 ans et une Swatch. Donc, c'est pas vraiment ça. Ce qu'il faut, il faut surtout se poser la question quand on travaille, c'est est-ce qu'on se réalise, est-ce qu'on s'épanouit, est-ce qu'on aime ce qu'on fait. L'argent, ça peut être un moteur, évidemment. Il faut se préparer dans nos métiers à en gagner, à en perdre. Et c'est ce que je voulais leur faire comprendre avec
ça. Ça fait un peu peur, hein,
la Oui, mais c'est la vie d'un entrepreneur. C'est la vie d'un entrepreneur. Et leur laisser penser que tout est rose, tout est beau et qu'on gagne toujours beaucoup d'argent, c'est pas vrai. Les liquidations dont on parlait, c'est une vraie tristesse. Et pourtant, ce sont des entrepreneurs qui avaient 15 ans de métier, donc pas des débutants. Mais au-delà de ça, c'est l'argent, c'est une chose. C'est surtout vous participez à loger des gens. Moi, j'ai commencé comme conseiller de loger des gens dans la ville, dans le village, dans l'endroit où vous vivez. C'est-à-dire que vous participez à la vie de la société. Et c'est ce qui permet aussi de construire des ensembles humains où les gens habitent. On loge toutes sortes de gens, toutes sortes de profils, de l'éboueur au chef d'entreprise. Et moi, quand quelqu'un...
C'est-à-dire qu'il faut aimer le contact humain, la discussion, s'intéresser à la vie des gens. Il faut être très clair là-dessus.
Ouais, si vous n'aimez pas ça, si vous n'avez pas d'empathie et un minimum d'intérêt, c'est difficile. En tout cas, les bons conseillers sont ceux qui s'intéressent aux gens et qui acceptent aussi de faire des visites. Et puis, ça ne donne rien. Et puis, les gens achètent autre chose. Et puis, vous les revoyez ou pas. Donc, quand je dis qu'il faut être marathonien, c'est un métier de... Oui, effectivement, il faut s'inscrire sur la durée. Cette image qu'on avait de métier facile, ça, je pense que c'est fini parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence qu'avant. Il y a un des jeunes parlait de priceable. Ben voilà, on est obligé de travailler avec des sociétés comme ça, des start-up, d'évoluer dans le monde dans lequel on vit. L'histoire de la question sur l'énergie, c'est très actuel. Nos jeunes, par exemple, nos jeunes conseillers ne sont plus du tout les mêmes qu'avant. Là, on vient de faire un swimming sur Cap-Breton, ils ont des prédispositions, ils font attention à la nature, ils font attention, est-ce qu'on construit la loi d'artificialisation des sols? Alors, les mêmes jeunes qui nous disent qu'il faut arrêter de construire sont les mêmes qui disent qu'on n'arrive pas à se loger. Donc, ils sont en phase avec la société. Il faut juste savoir que, ben voilà, quelle que soit l'époque, il faut se loger.
Mais l'immobilier leur plaît. C'est quand même ça
Moi, je pense que c'est un métier qui est riche humainement, parce que vous rencontrez tout, et surtout, ce que je leur disais en entrée, vous pouvez faire de l'immobilier d'entreprise, vous pouvez construire des centres commerciaux, vous pouvez faire des lotissements, trouver des locations, enfin, il y a tout. C'est vraiment très très riche, et en termes d'entrepreneuriat, c'est gérer une entreprise à taille humaine, et qui peut se développer. Nous, on a des confrères qui ont 4, 5, 10 agences, donc...
Théo, il a envie d'aller bosser dans la tech, une proptech, bosser en start-up et après rejoindre un groupe comme le vôtre plus traditionnel, c'est possible ou pas?
Mais oui, parce que ça vous donne une ouverture d'esprit. C'est-à-dire que quelqu'un qui a travaillé dans une start-up sait qu'il peut réussir. Son projet ne peut ne pas marcher, c'est pas pour ça qu'il sera pas bon, c'est juste que c'était peut-être pas le bon moment ou il lui manquait peut-être des fonds. Mais en fait, il faut avoir une ouverture d'esprit. Si vous êtes trop carré, quand vous rentrez acheter une maison, souvent, les gens repartent pas forcément avec ce qu'ils ont demandé parce que on a une idée préconçue. Donc après, il n'y a pas de profil particulier, mais quand même, si on s'intéresse aux gens, c'est mieux quand même.
Merci beaucoup Guillaume Martineau d'être venu dans Recherche Talent aujourd'hui, vous prêter à l'exercice président de la coopérative Orpi. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Nouveau talent, nouveau patron. Bonne soirée.
Recherche Talent sur BFM Business.